Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Sarov.
Donc vous êtes une montpelliéraine, une pure jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices et amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose d'aller faire un petit tour à Villeveyrac, pardon. Pour ceux qui connaissent mal ce village, qui ne le situe pas, je dis que c'est entre Gignac et Montagnac. Vous y êtes ? C'est là qu'est installée la maison d'édition Le Papillon Rouge, dont j'accueille le créateur et patron, Hubert Delobette. Merci d'être venu aujourd'hui au micro de Divergence. Alors, nous pourrions consacrer entièrement l'émission à votre parcours professionnel tout en virage, un diplôme d'ingénieur en biotechnologie décroché à l'Institut Pasteur, un master de management agro-industriel conquis à l'agro de Montpellier, des activités de chercheur à l'Institut Pasteur et dans l'industrie pharmaceutique, et une période ensuite de journalisme scientifique comme pigiste, notamment pour Sciences et Vie et Sciences et Avenir. Tiens, le goût d'écriture se manifeste. Il se confirme ensuite avec une quinzaine de livres sur la jeunesse, le patrimoine, l'histoire de la région, les sciences, publiés chez divers éditeurs. Parmi eux, un roman paru en 1998 chez L'Homme, écrit avec Jean-Marie Aigli et intitulé « Tiens, le rêve du papillon rouge », insecte qui donne son nom à la maison d'édition que vous fondez en 2003. Alors, pourquoi ce papillon rouge, là, Hubert Delobette ?
C'est vrai qu'on m'a souvent posé la question et bon, c'était un clin d'œil. Il y avait effectivement ce roman, Le rêve du papillon rouge, et j'aime bien cet insecte qui revolte, qui papillonne un peu d'une fleur à l'autre, qui se nourrit de différents nectar, de différents miels, et voilà, comme la maison d'édition qui se nourrit un peu de différentes influences, de différents auteurs. Et puis c'est un insecte qu'on trouve au printemps, l'été, des saisons que j'aime bien, donc il y a un côté léger qui me plaisait.
Donc nous allons suivre ce papillon, mais avant de le suivre, racontez-nous d'abord votre Montpellier. À votre tour, d'apporter votre part au portrait de notre ville, brossé collectivement par mes invités, par petites touches successives, semaine après semaine. Donc, première question, quels sont les lieux à Montpellier que vous appréciez particulièrement, pas nécessairement les plus connus, auxquels vous êtes attaché et que vous recommandez à vos amis de passage?
Alors, il y a deux lieux, l'un en vocation touristique et l'autre qui ne l'est pas du tout. Le premier, c'est le musée Fabre. Oui. Voilà. Ma mère aimait beaucoup la peinture, elle nous amenait souvent. Voilà.
Ah, vous avez fait votre éducation, elle a aiguisé votre goût pour les arts plastiques.
Voilà, elle aimait bien.
En vous traînant.
C'est ça, en me traînant par la main quand j'étais plus petit, là c'était moins marrant. Et après, finalement, j'ai, comme quoi l'éducation c'est important. J'ai aimé cet univers, voilà, ces tableaux, et j'ai vu la transformation de ce musée. Donc, univers de beauté, d'art, voilà, qui m'a séduit. J'y vais souvent, des cas de nouvelles expos.
Ça a peut-être contribué à former votre œil, comment dire.
Ah oui, c'est vrai.
Compétence qui n'est pas inutile, on en parlera dans votre métier.
C'est vrai. Vous avez raison, j'avais jamais songé, mais peut-être, oui, le côté graphique, coloré, ouais, vous avez raison. Ouais, voilà,
alors, deuxième lieu.
Le deuxième lieu, c'est la médiathèque Zola, voilà, ouais. Tout simplement, parce que j'adore ce grand vaisseau-là de la culture, où c'est très silencieux, j'y vais souvent pour écrire, et voilà, je me mets au troisième étage, à l'Orient Occitanie, et on voit tous les gens qui bossent, les chercheurs, les étudiants.
Cela de...
Voilà, j'adore cette
presque de recueillement, en tout cas.
Exactement.
Alors, Hubert Delobette, quel jugement, deuxième question, portez-vous sur les profonds changements, vous les avez vécus ou vus, que Montpellier a connus, croissance démographique, expansion urbanistique et autres mutations, quel est votre regard, là, de... Si ce n'est d'habitants, du moins de piétons montpelliérains.
Oui, alors évidemment, il y a du bon et du moins bon, comme tout dans la vie. Le moins bon, c'est l'évolution démographique qui a été très importante. Ouais. Je me souviens, dans les années 80, on disait qu'il y avait 200 000 habitants à Montpellier. Maintenant, c'est une métropole de presque un demi-million d'habitants. Donc, au niveau de la circulation automobile, c'est tout à fait bête, prosaïque. Mais
c'est ce que vivent beaucoup de gens. En fait, ça va peut-être un peu se calmer quand le plus gros des travaux sera achevé.
Oui, je raconte l'anecdote souvent. souvent. En fait, j'ai grandi à La Brossière, un petit village près d'Agnan, Gignac. Et quand j'allais à la fac, donc j'ai fait le lycée, la fac, et puis j'habitais aussi à Montpellier. Mais je prenais ma deux chevaux, et alors on se fichait complètement de l'heure à laquelle il fallait partir.
On était à l'heure.
On était à l'heure et on rentrait dans la ville.
On n'avait pas du mal pour se garer, qui plus est.
Exactement. Et maintenant, je vois les gens de La Brossière ou du Livérac, mais ouais. ils se tapent une heure de bouchon. Donc ça, c'est le
donc
côté...
cette croissance, ouais, vous en voyez les effets, bien sûr.
Ouais, un peu négatif.
Et alors, le volet positif.
Le volet positif, évidemment, c'est une ville qui s'est embellie. Et vraiment, j'ai vu, voilà, avec une infrastructure de lieux de sport pour la culture. Enfin, on parlait du musée Fabre qui s'est modernisé, qui s'est... Donc voilà, c'est après le côté positif, c'est ça. C'est une ville qui est devenue beaucoup plus belle et beaucoup plus riche pour accueillir ses habitants.
Très bien. Alors revenons au papillon. Qu'est-ce qui vous a conduit, alors que vous étiez auteur, à devenir éditeur? Quelles ont été les raisons de cette nouvelle inflexion de votre trajectoire?
L'envie de, bah, comme le papillon, de voler de mes propres ailes, finalement, c'est ça, le goût d'entreprendre, alors que paradoxalement, je suis issu d'un milieu où voilà, on était fonctionnaire. Bon.
Il y avait quand même une formation en management qui vous avait donné quelques points de repère.
Qui m'a donné envie. Et puis je me suis rendu compte que finalement, dans le Languedoc, l'Hérault, il y avait un créneau, une possibilité de faire des bouquins où il manquait de sujets sur l'histoire de la viticulture, de la gastronomie. Donc il y avait un créneau, voilà, et dans lequel je me suis engouffré.
Alors, vous venez de l'évoquer, mais quelles étaient les grandes orientations de vos premiers choix d'auditeurs, en tout cas les lignes de force de votre politique éditoriale?
C'était l'histoire. J'ai toujours été passionné par l'histoire, le patrimoine. Et je retapais quand j'étais gamin des capitelles, des murs de pierre. Donc je ne sais pas, il devait y avoir une sensibilité.
Oui, cette curiosité, voilà.
Ouais. Et donc, l'histoire, le patrimoine, au niveau du Languedoc ou de l'Hérault, ça a été mon axe. Donc j'ai commencé à sortir. Le premier livre que j'ai sorti s'appelait Trésor retrouvé de la Garrigue, qui racontait un peu tout ce que la Garrigue offrait à
C'est un univers méconnu, beaucoup plus riche en biodiversité,
ça,
végétale notamment.
Voilà,
et puis des formes humaines quand même d'occupation de la Garrigue.
Exactement, vous avez bien résumé. Et ce livre qui a bien marché, qui m'a encouragé à persévérer. Donc après des livres sur l'histoire de la viticulture, de toute la richesse qu'on avait alimentaire dans le Languedoc. Alors on était pris entre le sud-ouest et la Provence et on parlait très peu du Languedoc. Oui. Pourtant il y a plein de produits locaux, de terroirs. Donc voilà, un bouquet là-dessus.
Alors, c'est aujourd'hui, que reste-t-il, bon, plus de 20 ans après, de vos analyses, de vos aspirations ou de vos intuitions d'alors? Est-ce qu'il y a une espèce de fil conducteur qui, vaille que vaille, s'est perpétué?
Oui, finalement, quand vous me posez la question, je suis en train de réfléchir tout en même temps et je me dis...
Quand les invités réfléchissent, je suis ravi pour le coup.
je me dis tout en vous écoutant que finalement, il reste encore beaucoup de choses à faire. Donc, sur plein de sujets, faut que ça soit de l'architecture en passant par les romans décrivant la vie d'autrefois. Il y a vraiment... Voilà.
Donc, il y a une espèce de veine... Que vous avez exploré, mais qui n'est pas épuisé pour le coup.
Non. Alors ça peut paraître ringard, peut-être pour certains auditeurs qui diront oh, il s'intéresse.
Vieille pierre, oui.
Voilà. Alors que moi, je trouve que ça fait toute la richesse, finalement, de notre histoire, de notre culture. Il faut, pour savoir où on va, on dit toujours qu'il faut savoir d'où on vient. Et c'est pas mal de raconter l'histoire d'autrefois. Voilà.
D'accord. Alors. Depuis son envol, quelles ont été les principales étapes du papillon? Est-ce qu'il y a eu des moments marquants, des développements, peut-être des périodes un peu plus difficiles, en tout cas, à grand trait, là, bon, quelles ont été, je dirais, les séquences dans lesquelles s'est inscrite cette maison d'édition?
Alors, à grand trait, l'édition, c'est difficile, parce que chaque fois que vous sortez un livre, vous ne savez jamais s'il va marcher. C'est vraiment un métier...
Il y a toujours une prise de risque, et donc une inconnue.
Toujours une prise de risque, et moi qui suis d'un caractère anxieux, je n'aurais jamais dû faire ce métier, parce que ça m'a rendu encore plus anxieux et angoissé. Mais bon, voilà, mis à part ça, il y a eu des étapes marquantes. Au début, par exemple, on s'occupait nous-mêmes de la distribution, de la diffusion des livres, mais c'était vraiment très difficile, beaucoup de travail. Donc,
c'est un métier particulier, oui, pour le coup. Ouais. Il y a une logistique particulière.
Voilà, donc on est passé il y a une quinzaine, une dizaine d'années à une distribution, une diffusion professionnelle avec un gros distributeur-diffuseur.
Et donc, on peut citer son nom.
Oui, qui s'appelle MDS, qui distribue aussi le Seuil, la Martinière, en fait des grosses maisons, la bande dessinée. Et donc ça permet ça de passer un cran supplémentaire dans le professionnalisme de ce métier et de fraîcher un cap.
Alors, Pour que nous ayons une idée d'ensemble de votre production, quelles sont les collections, pour les principales collections, qui, vous avez commencé à l'esquisser, qui indiquent les champs, les domaines dans lesquels vous intervenez?
Alors, il y a la première collection s'appelait Les Histoires Vraies. C'est du Bellemare à le champ régional, quoi. C'est des histoires extraordinaires, mais véridiques, qui se sont passées dans la région. Donc, voilà, les gens sont intéressés par un peu toutes ces histoires-là, un peu pittoresques et rocambolesques. Il y a aussi une autre collection qui s'appelle Ces Français qui ont fait l'histoire, qui met en avant une cinquantaine à chaque fois de personnages, hommes et femmes, qui ont eu des destins extraordinaires dans une région ou un département, donc l'Hérault.
Alors, je vous arrête pour bien faire comprendre qu'une partie ou moins de vos livres ne sont pas régionaux et encore moins régionalistes, et ce sont des sujets à caractère national. Quoi,
tout à fait. Voilà. On a des collections, mais qu'on a développées sur l'ensemble des régions. Donc, par exemple, pour cette collection dont je parlais, Ces Français qui ont fait l'histoire, mais vous avez ces Alsaciens qui ont fait l'histoire, ces Bretons, ces Auvergnats. Et évidemment, il y a un axe fort autour de l'Occitanie, avec, bon, on a tout fait, l'Hérault, le Gard, la Lozère, l'Aveyron, etc., les PO. Voilà, donc cette collection. On a aussi une collection, peut-être on en parlera après, sur les femmes d'exception.
On va en parler, oui.
Voilà. Une collection sur la peinture aussi, ça revient.
Ah ben, revoilà.
Revoilà
le musée Fabre et autres.
C'est ça, les collections sur la peinture. Et une collection un peu plus récente qui s'appelle Les Hauts Lieux de l'histoire. Donc, par exemple, sur l'Hérault, on a sorti les hauts lieux de l'histoire dans l'Hérault. Donc, à chaque fois, c'est présenté 50 sites historiques. Voilà,
connus ou pas.
C'est toujours... Vous faites bien de le dire, c'est toujours le... Ce que j'aime bien
dans la découverte,
voilà. Par exemple, sur la collection Les Français qui ont fait l'histoire, on ne va pas parler que des gens connus. Moi, je trouve l'intérêt, c'est de raconter des personnages peu connus, pour lesquels on ne pourrait pas faire une biographie entière, mais avec une dizaine de pages, raconter ce qu'ils ont vécu.
D'accord. Alors, en 2010, vous avez lancé la collection Femmes d'exception. Quelle est sa vocation?
En fait, je vais raconter de l'histoire. Un jour de 2009, je tombe sur un article scientifique, parce que bon, voilà,
il y a quand même toujours une curiosité pour ce qui se passe du côté de la science.
Voilà. Ouais. Et je vois la petite atrophilée. Première femme médecin de France, Madeleine Bresse, née dans un petit village du Gard, Bouillargues. Et bon, je ne connaissais pas du tout ce personnage.
Inconnu
au bataillon. Je creuse, je cherche, je ne trouve pas grand-chose. À force, j'ai réussi à gratter et à trouver, et à écrire une dizaine de pages sur cette femme qui a eu vraiment un destin incroyable.
C'est vous qui avez écrit le livre.
Voilà, c'est moi qui avais écrit le livre. Enfin, un co-auteur avec un personnage qui s'appelle, ou en couleur que j'adorais, Paul-René Dinito.
Journaliste à la France 3.
Voilà.
Et un personnage, quoi.
Un personnage,
en effet, hein. En effet, oui.
Exactement,
oui. Je l'ai côtoyé.
Voilà, vous l'avez bien connu. Et donc, on écrit ce livre tous les deux. Et voilà, donc, Madeleine Bresse. Mais à côté, donc, on a écrit d'autres personnages, d'autres vies.
Quelques exemples, peut-être,
hein. Alors, un exemple, par exemple, parmi d'autres, Yvette Labrousse, fille d'un conducteur de tramway à 7, donc d'une famille très modeste, et qui va devenir l'une des femmes les plus riches du monde. C'est une histoire incroyable.
Hein. Par ses propres moyens ou en épousant?
En épousant
un milliardaire.
En épousant la Gacan. C'est une femme très belle qui a été la première à gagner le concours Miss France. Et donc,
un destin particulier.
Ce fameux Gacan est tombé amoureux d'elle. Et voilà, sortant de 7, de ce petit foyer, habitait Grand Rue Haute, elle est devenue une femme incroyable dans les années 40, 50, 60.
Alors, on poursuit un peu l'exploration de ce que vous faites. Une de vos récentes parutions a attiré mon attention parce que ce livre est une des manières de raconter Montpellier. Son titre, Folies et domaines autour de Montpellier, son auteur, Claude Huvert. Alors, ce que je vous propose, pour donner à comprendre le métier d'éditeur avec ce cas particulier, racontez-nous l'histoire de ce livre, hein, de A à Z, de l'idée du sujet à la mise en vente. Et au passage, dites aux nouveaux venus à Montpellier ce que sont les folies d'autrefois. On parlera un autre jour des folies d'aujourd'hui.
Alors, je vais raconter l'histoire complète, véridique. Donc, chaque année, je vais à la Comédie du Livre à Montpellier. Évidemment, nous avons un stand. Et vient me voir donc sur mon stand un auteur qui n'avait jamais écrit, un prof de lycée, Claude Huvert, qui me dit, voilà, j'aimerais écrire un livre sur les folies. Je me passionne depuis toujours pour l'histoire de Montpellier. Donc j'ai trouvé que c'était une très bonne idée, puisque Montpellier, voilà...
Il n'y a rien à ce moment-là, en tout cas récent, qui fasse qui dresse le panorama des folies.
Voilà, il n'y avait rien sur ce sujet. Donc On peut expliquer que les folies, ce sont ces villégiatures qui sont nées au XVIIIe siècle, où des riches familles de Montpellier se faisaient construire des petits châteaux à l'extérieur de la ville.
Pas très loin en plus,
dans
une partie où on ne trouvait que des vignes et de la garrigue. Hein,
exactement, voilà, où ils pouvaient avoir un peu d'air inviter le tout Montpellier. Donc il y en a plein, on peut citer la Maugère, la Flaugergue, il y en a 80 qui sont présentés dans
80.
La... 80 ah, 80
oui, quand d'accord,
même.
D'accord.
Ouais, la piscine, enfin, il y a
Langaran, en fait, etc.
Langaran, exactement. Et donc, je trouvais que c'était une très bonne idée. Et voilà, donc c'est un gros boulot, parce qu'il y a quand même 250 pages. C'est lui qui a pris les photos, a pris de 800 photos, fait avoir les autorisations.
Ah oui, c'est une somme.
C'est une somme, vraiment, c'est un gros boulot épuisant, au bout du compte. Mais finalement, il y a eu un beau rendu à la fin. Et maintenant, ce sera le livre de référence sur ce sujet.
Donc, on repère un sujet. Ah ouais, bon sujet. On y travaille avec un auteur.
On travaille avec un auteur.
On dessine un peu ce que peut être le livre. Le livre s'écrit, des allers-retours, une relecture des textes, un énorme travail d'iconographie.
Voilà.
Qui, bien sûr, constitue une part déterminante dans ce genre d'ouvrage.
Voilà. Et ensuite, donc, on en parle avec les diffuseurs et distributeurs, comment on peut le mettre en avant. Je peux vous citer l'anecdote, ça a été très difficile au début, parce qu'on l'a sorti il y a quelques mois, et où Soram avait des difficultés, et donc il y a eu quelques heures pour le mettre en avant.
Ah oui, parce que ça a patiné, oui, bien sûr.
Ça a patiné
pour les lecteurs qui trouvaient des rayons en partie vides, vécu personnellement, donc, et les acteurs de la filière livre ont eu à connaître ces difficultés.
Voilà, donc on est tombé en plein dans ce moment-là, donc ça a été un peu dur. Mais bon, voilà, écoutez, je pense que ce livre aura sa belle vie et se vendra pendant... C'est ce qu'on appelle en jargon des livres de fond.
De fond.
Voilà, alors après...
Oui, c'est ça, ils ne sont pas liés à une actualité ou à un sujet qui émerge soudainement, là. Ils gardent leur valeur, comme les bons vins, un certain temps.
C'est ça. Après, quand vous...
On a des livres de garde, j'ai envie de dire, quand on parle des vins de garde.
Oui, vous avez une bonne analyse. C'est le livre de garde comme le vin, voilà. Et après, il faut déterminer son prix. Voilà, c'est des livres qui coûtent cher parce qu'ils sont tout en couleur, avec ce qu'on appelle dans notre jargon des beaux livres, forme cartonnée, etc.
Ouais. Vous imprimez en France ou vous n'êtes pas insensible aux offres concurrentes venant d'Outre-Pyrénées ou d'Outre-Alpes?
Ça, c'est difficile. Alors, on imprime 70% de notre production anime, donc là on a la version locale, et malheureusement pour ce genre de beaux livres on imprime ou en Italie ou en Espagne, je suis désolé, mais là c'est pas tout fait de concurrentiel.
Ah ben, il faut bien sortir la calculette.
Voilà, mais au moins c'est en Europe. Hein, voilà.
Et est-ce qu'il y a des choix pour affiner, je dirais, les lieux de distribution du livre en fonction de son sujet, du territoire que le livre raconte?
Oui.
J'imagine que le livre est plus facile à trouver ici qu'à Strasbourg.
Voilà, oui. Alors c'est marrant parce que vous parlez de ça, parce qu'il y a vraiment des régions où le livre marche mieux qu'ailleurs.
Ouais.
J'ai aussi par exemple, faire un livre à Paris, ça marche pas du tout. On l'a essayé.
Trop compliqué, trop d'offres,
moins de... par exemple, les livres sur la Provence, ça marche pas très bien. A contrario, des livres sur le Limousin ou l'Auvergne, où il y a une identité forte dans ces régions, et on s'approprie tout de suite des livres qui sortent. C'est très marrant.
Parce que ça correspond peut-être à une attente, tout simplement, de gens qui
amoureux
d'histoire locale, quoi. Alors, votre épouse Alice Doc vous a quitté son métier d'œnologue pour vous accompagner. Alors, qu'apporte-t-elle au Papillon Rouge, à part vous encourager comme elle le faisait, j'imagine, précédemment?
De la sérénité, puisque moi qui suis un caractère angoissé, elle me rassure toujours. Et puis, de temps en temps, évidemment, je lui dis, tu regrettes pas d'avoir abandonné ton job, parce que c'est évidemment...
Elle n'a pas fait par hasard, elle n'a pas choisi par hasard d'être œnologue, je suppose, elle doit aimer le vin. Ça a donné des livres, carrément, sur le vin, autour du vin.
Oui. On a écrit un livre à tous les deux, qui s'appelle La longue marche du midi viticole, où on raconte l'histoire de la vigne et du vin depuis 2000 ans dans notre région. Et blague à part, on est vraiment interchangeables. C'est-à-dire que elle s'occupe de la mise en page, mais elle peut discuter avec un libraire, un auteur.
Ouais. C'est le binôme qui fonctionne, qui fait tourner. L'équipe s'en tient là, ou vous avez quand même des collaborateurs?
On a des intervenants extérieurs.
Ponctuellement, là, enfin, donc.
Ponctuellement, voilà.
C'est ça, prestataires ou des pigistes.
Exactement.
Alors, je le rappelle, le Papillon Rouge a été créé il y a 22 ans. Vous publiez une quinzaine de livres par an, là, grosso modo. Et en préparant l'émission, vous m'avez dit, j'ai vendu 500 000 livres, boum. Je n'ai jamais eu d'exercice financièrement déficitaire. Alors, On sait que le secteur de l'édition est en crise, il y a des disparitions, des concentrations. Comment expliquez-vous votre réussite économique ? Quelles en sont les différentes raisons ? Parce qu'après tout, ça pouvait être une idée sympathique au départ, un engouement qui aurait subi brutalement le choc du réel, et ça n'a pas été le cas.
C'est vrai, c'est vrai. J'y vois plusieurs causes, raisons du moins, beaucoup de travail. Donc là, j'ai beaucoup bossé. Là, il ne faut pas perdre son temps pour développer la maison d'édition. Peut-être aussi la niche que l'on a, dans laquelle on s'engouffrait, c'est-à-dire l'histoire, le patrimoine régional. Finalement, ça intéresse toujours les gens. On n'a pas choisi, par exemple, le roman, qui est assez casse-gueule. Hein, je mets ça
Il y a très peu de fiction dans votre offre. Il y en a un peu.
Voilà.
Mais c'est un genre particulièrement difficile, particulièrement risqué. On sait qu'il y a plusieurs centaines de livres de romans qui sortent avant la rentrée dite littéraire.
Voilà. Donc là...
J'imagine qu'on n'échappe pas à ce phénomène. Et donc, je suppose, ce que je crois savoir, de rotation, des livres qui sortent, ils sortent rapidement des tables et des vitrines des libraires.
Exactement, c'est
ce
que
je voulais
dire.
Et on se retrouve avec un énorme stock sur les bras.
Voilà,
enfin, je force le trait, mais...
Mais non, mais ne forcez pas le trait, c'est tout à fait ça. Un roman, il restera 15 jours sur une table, et s'il ne marche pas, il sera tout de suite remplacé par un autre, alors qu'un livre sur les folies de Montpellier, il va rester pendant 10
bien
ans
sûr.
Un livre de fond. Donc c'était quelque chose d'être un peu plus facile. Voilà.
Voilà.
Mais je vous dis...
Quitte à bon être un peu frustré de ne pas donner place à la fiction... Et même si, bon, on l'a compris, le fond, c'est un fond de journalisme, de curiosité pour la connaissance, bon, la science, etc. Et donc, qui a pu induire, je le suppose, des découvertes de connaissances, de savoir, mais il y a quand même l'imagination, l'imaginaire, ça pouvait avoir sa place. Oui.
Alors, si quelquefois un peu de regret, effectivement, parce que la fiction, par contre, c'est avec ça que vous pouvez d'un coup faire la culbute, c'est-à-dire vous allez pouvoir avoir un roman d'un coup qui explose. Et donc là, bon, ma foi, j'ai jamais eu d'exercice négatif. Mais j'ai jamais non plus, je suis pas devenu millionnaire non plus. Mais bon, voilà, c'était peut-être pas le but de rechercher aussi.
Ça, on peut le supposer, on peut le deviner. Alors, dans vos métiers d'éditeur, au-delà des exigences de la gestion, on en a parlé, qu'est-ce qui le matin vous donne envie d'aller travailler ? Peut-être une flamme particulière qui continue à briller. Le privilège, me semble-t-il, à notre époque, de faire un métier qu'on aime. Et j'imagine que c'est un ressort de votre motivation. Vous ne comptez pas, j'imagine, vos heures, qui explique cet talent qui se perpétue.
Le ressort, c'est l'envie de découvrir à chaque fois des nouveaux sujets. Vraiment.
Ah, hein. Oui.
Ouais, là, par exemple, écoutez, juste avant de venir, j'ai bossé sur un livre qu'on va sortir bientôt, là, qui s'appelle... C'est une biographie sur Roland Bonaparte, un petit-neveu de Napoléon. Donc là, je découvre un personnage assez incroyable. Voilà, je suis en train de préparer un autre livre sur la peinture. Donc découvrir toujours des nouvelles choses. Ça c'est vraiment passionnant et c'est ce qui me donne envie tous les jours.
Le plaisir de votre propre découverte et puis le plaisir de la transmission pour aiguiser la curiosité ou satisfaire la curiosité des futurs lecteurs.
Oui. Ça aussi, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de la comédie du livre. On fait beaucoup de salons et je suis content quand des gens viennent me voir en me disant: ah, mais j'ai acheté ce livre pour mon oncle, mon oncle, mon père, ma mère, qui ne lisent pas beaucoup, et finalement qui se sont régalés à découvrir cette telle histoire. Donc ça, c'est vrai que la transmission, vous avez raison, ça fait partie des moteurs de cette qui font vivre cette activité.
Et donc les échanges avec des lecteurs comme ça, inopinés ou dans le cadre de rendez-vous autour du livre, de la littérature, viennent généralement nourrir cet enthousiasme ou peut-être alimenter votre réflexion sur les projets à venir.
Oui, oui, oui. Ça, c'est le côté passionnant, effectivement. Les auteurs qui vous proposent des sujets, les auteurs qui viennent vous voir disant j'ai telle idée. Bon, y a beaucoup aussi de choses farfelues qu'on nous propose.
Oui, faites le tri, oui, bien sûr.
Voilà, il faut faire le tri. Mais
oui, parce que l'érudit local, entre guillemets, ceci dit sans arrogance, qui croit avoir trouvé l'idée du siècle et un sujet qui ne va pas manquer de mobiliser les foules,
voilà.
Vous en croisez, bien sûr.
Je cite toujours avec humour une dame qui m'a poursuivi pendant des années, qui voulait faire un livre sur les heurtoirs de portes de Pézenas. Donc voilà, évidemment, ce sujet, c'est un peu
plus... Ah oui, il y a de belles choses, mais de là à sortir un livre...
De là à faire un livre, parce qu'il y a quand même le côté... Il y a une rentabilité à avoir. Voilà, il faut que on vit de ça, quoi, dans la famille. Donc, voilà. Mais après, sinon, c'est... plein de sujets originaux et à développer. Et ça, ça me fait vibrer. Ouais.
Alors, vous l'avez un peu évoqué bon, sur les projets en préparation. Vous pouvez donner quelques précisions là, sur ce sont la programmation, au moins un grand trait de...
Oui, un grand trait. On sort au mois d'octobre un livre là que j'ai écrit, donc qui m'a donné beaucoup de travail, mais je suis content qu'il va s'appeler « La vie des Occitans sous le pinceau des peintres », donc montrer des scènes de la vie quotidienne de gens, des viticulteurs, un artisan, des femmes qui cousent dans une maison, enfin, voilà, vraiment des scènes tout à fait banales.
Ça part de tableaux ou d'œuvres d'art qu'il a fallu repérer.
Exactement, c'est ça.
Donc inventorier, choisir,
inventorier.
Et après, il y a le travail de recherche historique hein, à partir de cette iconographie. Voilà. Le livre. Il sort bientôt d'ici.
Il sort le début octobre.
D'accord.
Voilà.
Et après, c'est déjà bon pour les cadeaux de Noël. Ça.
Voilà. Je vous en remercie.
Et quoi d'autre encore?
Et après, donc, des biographies. Donc, livre là, comme je racontais sur un petit neveu de Napoléon qui est venu dans la région. Et puis, on continue les collections. D'autres livres sur les femmes d'exception, hein, sur le Limousin. Un livre sur les... Enfin, on continue nos collections et voilà, nos aventures.
Très bien. Alors, dernière question, Hubert Delobette, on en avait parlé. Quelle est l'idée reçue, l'idée fausse sur le métier d'éditeur, tel que vous pratiquez en tout cas, idée fausse que vous rencontrez souvent, qui vous exaspère peut-être, ou en tout cas, qui ne correspond pas à ce que vous savez de ce beau métier de l'anglais.
Je vais quelquefois dans des classes où...
De collège ou de lycée.
De collège ou de lycée, alors comme je suis auteur, éditeur, alors c'est très souvent, mais même systématiquement, je vois les enfants qui lèvent le doigt, ils disent alors, quand on est auteur, voilà, on est célèbre, on est une star, on est riche.
Ah, oui.
Voilà, et alors je les calme tout de suite.
Ça, c'est les faits télé-réalité ou je ne sais pas quoi, d'accord.
Oui, certainement. Et je leur dis, vous savez, donc, en France, alors, c'est les chiffres qui sortent, pour qu'on entend ici et là, il y aurait une cinquantaine d'auteurs vraiment qui arrivent à vivre de leurs plumes. Donc voilà, on ne devient pas riche à l'écrivain.
Bien sûr. Voilà. Y compris des auteurs connus qui sont profs, chroniqueurs, journalistes.
Voilà, journalistes qui font à côté d'autres
bien
métiers.
Sûr.
C'est une idée reçue. Oui, surtout, n'écrivez pas pour devenir riche.
Ouais. Ça, la célébrité, ce n'est pas nécessairement la richesse.
Exactement.
Voilà cette forte pensée qui va nous permettre de conclure dans les hauteurs. Merci beaucoup, Hubert Delobette.
C'est moi qui vous remercie infiniment.
Au revoir.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpellier-Rennes, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une Montpellier-Rennes, pur jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Dudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.